愿吧。
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Pierre-Yves.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Aujourd'hui, un sommaire qui sera un peu à rebond. On va partir visiter un peu l'univers du métal. On reviendra, puisqu'on a entamé la semaine dernière un sujet de jeu de rôle. Il nous reste quelques news à épuiser. On écoutera, bien sûr, un peu de musique. Et je vous propose de tout de suite commencer, comme d'habitude, par cet agenda qui est ludique et aussi un peu virtuel. Alors, on a actuellement le Vendée Globe. Ça s'est lancé il y a quoi ? Il y a même pas une semaine ?
En début de semaine, tant bien que mal, ouais.
Alors, tant bien que mal, parce que à cause des mesures du Covid ou...
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde sur les quais. Non, c'est la météo, simplement, qui n'était pas favorable.
Il y a un événement virtuel qui prend place à côté de ce Vendée Globe où on peut soi-même participer un peu à la course.
Ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a des applications, des sites qui proposent déjà de suivre en temps réel le Vendée Globe, mais d'aller un peu plus loin en créant ton bateau et en imaginant ton parcours, puisqu'on sait que le plus dur dans le métier, l'un des points importants, c'est bien choisir la météo, bien suivre la météo et anticiper les vents. Et donc, tout le monde, tous les participants à travers le monde peuvent... calculer à l'avance la météo, se renseigner et prévoir un trajet, une trajectoire pour leur bateau. Et chaque jour, au fur et à mesure, ils voient s'ils ont fait les bons choix ou pas. Donc il y a des milliers, il y a quelques, je sais pas combien ils sont, au moins 10 ou 20 vrais concurrents sur l'eau, mais il y a des milliers de concurrents virtuels sur Internet.
Et dans ce jeu qui s'appelle Virtual Regatta, on peut appeler ça un jeu. Hein.
Oui, c'est un jeu.
Que vous pouvez d'ailleurs installer sur Android, iOS, un peu comme tout, il prend en direct les notions du temps, comme tu le disais, Dominique. Donc, on a la météo qui est mise à jour directement dans le jeu.
Exactement, ça prend les vraies données, oui.
On a l'impression d'y être. Alors, bien sûr, même si on n'a pas les contraintes techniques des personnes qui font ça, puisque...
On a le confinement, par contre. C'est une course en solitaire. Et ils sont confinés tout seuls sur leur bateau. Si tu es tout seul chez toi, tu es un petit peu en solitaire.
C'est ça. Alors, on a des records de téléchargement pour l'application. Donc, il y a vraiment une envie des gens de suivre et aussi de participer un peu ludiquement à la course. Et on parlait la semaine dernière de Kerbal Space Program. Ici, c'est un peu pareil. Hein. On rentre un peu dans les sujets techniques. Comment est-ce qu'on optimise un peu les vents? Comment est-ce qu'on va au plus vite vers sa destination? Et il y a une compétition qui se lance, puisque c'est ça le plus important. Les gens font une vraie compétition. J'ai l'impression que le gagnant de Virtual Regatta sera peut-être plus connu que le gagnant du Vendée Globe.
C'est pas impossible, mais c'est pas... J'ai essayé, hein, je me suis connecté. Tu peux créer ton bateau, tu peux même choisir ton sponsor. Tu as des points à dépenser pour acheter. Si t'as pas envie d'avoir Fleury Michon ou je ne sais pas, comme sponsor, tu peux même créer, faire tes propres couleurs. On pourrait presque faire un bateau, heureusement en France, si on veut, avec les couleurs, ou un bateau Radio Campus. Et mais c'est compliqué parce qu'après tu dois choisir tes... Enfin, faut t'y connaître un petit peu en voile. Ou après tu peux choisir un petit peu au hasard, mais il faut avoir de la chance.
Ça serait quoi le pire sponsor qu'on pourrait choisir pour un bateau?
Un truc d'enclume, je ne sais pas.
Ou genre Air France, tu vois, t'es un bateau, mais tu fais une compagnie aérienne, ça pourrait être amusant.
Ne connaissant pas le jeu et l'application, est-ce que tu as est-ce que c'est comme une simulation telle que tu dois faire les mêmes seuils de sommeil que ceux qui sont sur les bateaux? Parce que si tu fais ta nuit de 8 heures, voilà, si tu fais ta nuit de 8 heures et qu'à la fin ton bateau il est sur les îles cubaines échoué, merci d'avoir joué.
Non, tu fais tes choix, puis tu vérifies de temps en temps où en est ton bateau, mais t'es pas obligé de le suivre en temps réel. Je crois que tu peux même le suivre en réalité virtuelle. Alors, est-ce que ça marche avec les casques de réalité virtuelle? Peut-être.
Après, Reynald, si tu veux, tu peux mettre ton fauteuil sur des moteurs et tout ça, et puis simuler la marée, les vagues, les crocs de 5 mètres, et puis la bassine pour vomir si t'es malade. Hein, si tu veux.
Et tu jouais dans la douche.
Et tu demandes à ta femme qu'elle te jette de l'eau de temps en temps.
Histoire de... Avec du sel et tout. T'es...
J'ai l'impression que c'est un petit peu... Parce qu'il y a eu la même chose pour le Tour de France, hein, où tu peux suivre, tu peux faire ton... Avec, que ça soit avec des jeux vidéo, ou des applications, ou des sites internet, tu peux suivre le Tour de France et avoir ton coureur et gérer ton équipe, etc. Enfin, il y a plein de sports comme ça qui se jouent aussi de façon un peu virtuelle en même temps.
Alors, on rigole, mais il y a dans Virtual Regatta des teams d'e-sport. Donc, ils sont au taquet. Hein. On a même une équipe en France qui est la MCES qui se lance dans l'aventure. Donc, je pense... Hein,
j'imagine que pour des sponsors, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu es... Bon, enfin, Florie Michon, etc., on se moque un peu, mais ils donnent des millions pour construire des bateaux et... Tout ce qu'ils ont en retour, c'est, à part voir leur nom cité dans le journal, dans le 20h et compagnie, de temps en temps, quand les navigateurs reviennent, il arrive que j'ai déjà vu des navigateurs qui font de tours des entreprises et qui vont rencontrer les employés, faire des stages de motivation, etc. Enfin, ils s'impliquent dans l'entreprise, quoi. C'est un peu, ça va au-delà du partenariat. Mais j'imagine que dans les entreprises qui sont sponsors, tu peux aussi faire des équipes et des challenges dans les équipes entre les employés pour qui participent aussi à la course virtuellement en plus de leurs concurrents.
Alors, on parlait du temps de jeu. Faut savoir qu'il y a un joueur qui s'appelle par exemple Tim Carpentier, qui est devenu le deuxième mondial sur le jeu, qui a organisé ses heures de sommeil pour justement pouvoir bouger le bateau selon le vent. Il passe quasiment 12 heures de sa journée sur le jeu. On est un peu comme du O-game. Moi, ça me rappelle un des seuls jeux qui te timait comme ça ta journée. C'était O-game où tu devais te préparer si quelqu'un venait t'attaquer, te lever à 3 heures du matin pour lancer tes attaques pour que l'autre ne puisse pas réagir. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même investissement.
Et il doit y avoir de l'argent à la clé.
Effectivement, il y a 10 000 dollars à la clé pour l'équipe vainqueur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont au taquet.
Là, je suis en train de regarder sur le site. Actuellement, pour le Vendée Globe virtuel, il y a 647 782 bateaux en mer.
Dans le vrai Vendée Globe, ils sont 33. Bon, même s'il y en a un qui a dû abandonner, a priori. Mais oui, c'est un peu plus que le vrai nombre de participants, du coup.
À mon avis, il doit avoir quelques accidents. Est-ce qu'il prend en compte les collisions dans le jeu ?
Heureusement, non. T'imagines 600 000 bateaux qui sortent du même, non.
Après, au-delà de l'aspect jeu, si vous voulez, vous pouvez quand même suivre du coup la course des vrais participants, donc voir du coup le chemin qu'ils parcourent sur les mers. Et c'est amusant de voir le parcours qu'ils prennent. Effectivement, vous les voyez faire un peu des angles droits, ce qui semble surprenant parce qu'on peut se dire ils vont y aller en ligne droite, mais en fait non, pas du tout. Eux aussi tiennent compte de la météo et du coup ils adaptent leur parcours et c'est très intéressant de regarder finalement comment ils évoluent.
Alors, faut préciser que c'est gratuit, enfin c'est payant. Tu peux jouer gratuitement, mais tu peux payer pour avoir plus d'options, pour mieux équiper ton bateau, etc. Donc,
c'est
très bien t'amuser sans payer, bien sûr.
C'est un pay to win. Vous pouvez aussi vous entraîner sur le jeu dont on parlait la semaine dernière, Sea of Thieves, hein, pour aussi calculer bien le vent. C'est un peu pareil. Alors, on enchaîne dans l'agenda. On a du très lourd qui arrive, ça sera le gros thème de l'émission. Et tout cela part d'un anniversaire qu'on fête ce mois-ci, Dominique.
C'était ce mardi, le 10 novembre, c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, qui est tombé dans la nuit du 9 au 10 novembre. Oui. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le fêter, puisque ce mardi, nos amis de Chrysanthème ont fait une émission spéciale sur un thème. Et le thème du dernier mardi, c'était le mur, justement.
Ils sont un peu comme nous, friands du back-to-back, où on vient avec un thème d'émission et chacun propose ses musiques. Et qu'est-ce qui était vraiment marquant, hein, pour nous tous dans cette chute du mur de Berlin? C'était bien sûr l'intervention de David Hasselhoff. Et David Hasselhoff nous a montré ses talents de chanteur, ses talents d'artiste dans l'univers de la musique, et a chanté un de ses tubes qui est devenu extrêmement célèbre en Allemagne, puisque je pense que le tube Looking for Freedom cartonne là-bas, mais un peu moins chez nous. Est-ce que vous voulez vous écouter une version? Alors, j'ai deux versions à vous proposer. Une qui commence par son interview et qui est le live qui était fait à Berlin en 1989, dans ce mois de novembre, ou la version avec André Rieu, où David Hasselhoff arrive avec The Knight Rider, donc K2000, la voiture carrément sur la scène.
Avec K2000, obligé.
En même temps, on l'entendra pas, mais on peut l'imaginer. Ah,
je vais entendre parler allemand, ça peut être amusant.
Knight Rider et Looking for Freedom pour célébrer un peu l'anniversaire de la chute du mur de Berlin de manière musicale.
Et on n'est pas les seuls à l'avoir célébré puisque ce mardi, nos amis de Chrysanthème, tous les mardis de 23h à minuit, ont fait une émission spéciale sur le thème Le Mur.
Alors, est-ce qu'ils ont été plus dans la construction ou dans la destruction ? Je vous invite à aller consultez le podcast que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Campus dans la rubrique podcast en allant à mardi et cherchant de 23h à minuit. Je vous propose d'enchaîner. On parle de David Hasselhoff. On parle ici d'un gros sujet hein, puisqu'il est sur Kickstarter.
Il a du mal à rassembler de l'argent. Bon, ça ne nous étonne pas.
Alors attention, on va tous se connecter en direct sur le Kickstarter de David Hasselhoff. Il demande 6 000 €. Et on en est à 16 000. Alors, je suis d'accord avec toi, Dominique. Vu la stature du personnage, 16 000 euros, j'ai un peu l'impression que c'est sous-coté pour quelqu'un de sa trempe.
16 000 euros au moment où on enregistre l'émission, attention. Hein. Peut-être qu'on a dépassé le million, je ne sais pas, au moment de la diffusion. Non, je plaisante.
Il a un Kickstarter pour 6 000 euros quand même. Enfin, ça me... Je sais pas.
Après, c'est un acteur qui date de quelques années déjà, où le summum de sa carrière a été quand même de, on va dire, 10 ans, 15 ans, même peut-être plus. Donc, il est facilement oublié par tout le monde et il reste
une base
de
fans. Il est un peu culte, voilà, c'est ça.
Voilà. Tu demandes à quelqu'un qui sait maintenant, jeune, il te sera pas assez de dire qui c'est.
Oui, t'es content de savoir qu'il est là, t'es content de savoir qu'il fait des trucs rigolos, qu'il se lance dans le hard rock et tout, mais à partir du moment où on te demande de payer, tu dis « Ouais, bien sûr, au suivant ».
Alors, dans le film Kung Fury, qui est quand même connoté dans des couleurs rétro et dans un univers un peu univers 80, ça avait quand même fait un carton, même auprès de la nouvelle génération. Et le titre qu'il avait interprété, qui s'appelait True Survivor, pour moi, l'avait un peu remis, un peu comme ça, au goût du jour, voire même mieux. J'ai l'impression que David Hasselhoff d'aujourd'hui, c'est un peu une nouvelle figure comparée à ce qu'on pouvait avoir avant. Avant, on avait l'icône un peu ringarde d'Alerte à Malibu. Même si K2000 reste un bon souvenir pour tout le monde, un peu comme Magnum, un peu comme MacGyver, un peu comme Starsky Hutch.
Je suis pas d'accord, parce que dans Kung Fury, justement, il a utilisé son image des années 80 pour dire, voilà, c'est un film sur les années 80, on en met quelqu'un de connu des années 80. Est-ce qu'il a fait quelque chose de plus que ce film? Non. Il a vécu sur ses acquis, maintenant, oui, il doit peut-être demander 6000 euros pour faire un Kickstarter. Il a peut-être les moyens, il fait peut-être ça juste pour se protéger.
Oui, enfin, comme souvent les Kickstarter, c'est pas forcément pour faire de l'argent, mais c'est aussi pour faire connaître le projet, quoi, pour voir. C'est un truc de précommande.
Attention, puisque ici, c'est vraiment le groupe de métal qui a invité David Hasselhoff qui a besoin d'argent. Un peu comme il avait fait sur un titre qui s'appelait Don't Hassle the Off, où il était là juste un peu parce qu'on parlait de lui, et puis ça risque d'être un peu plus puisqu'il va chanter, mais je pense pas qu'il va toucher une fortune là-dessus.
Il va pas trop bouger, avec le peu de photos qu'on a, il a pas l'air d'être en forme, on va dire. Faut pas qu'il bouge trop. On le voit surtout assis, on va dire.
Après, l'argent, c'est quand même pour financer, du coup, faire une vidéo et un making-of, donc c'est pas pour lui, effectivement.
Et c'est vrai que moi, je préfère maintenant les making-of aux vidéos. Quand on parle de Kickstarter, on aime bien détailler les contributions. Comme d'habitude, si vous donnez un euro, on vous dit juste un petit merci.
Tu n'auras même pas un pin's. Oh.
T'as que dalle. Maintenant, un euro, t'as juste un merci. Tu peux avoir 5 euros et puis récupérer quelques chansons digitales. Pourquoi pas? Et si tu donnes 10 euros, là, tu as le behind the scene en digital. Donc, tu as accès au making of, ce qui est pas mal.
Je ne suis pas sûr d'avoir envie de voir ce qui se passe en coulisses d'un tournage avec David Hasselhoff.
Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai
y avoir des nuages de poudre, je ne sais pas.
C'est un bon point à détailler. Bah, je pense que s'il est encore là, c'est qu'il a peut-être ralenti.
Mais ouais. Après, quand tu payes 40 euros, effectivement, c'est cher parce qu'en fait, la part qui revient à l'auteur du groupe, admettons, est très faible. Par contre, il touche quand même une partie. Alors que quand tu payes que 10 euros, certes, tu imprimes l'image sur un t-shirt. Par contre, l'auteur de la musique ne touche rien.
En plus, c'est un peu illégal.
Ouais, sans compter la qualité du produit, qui est généralement moindre, le t-shirt bas de gamme avec le transfert qui est en surface. Pour 10 euros, tu fais 2-3 lavages machine, d'après, tu n'en as plus.
Je suis pas forcément d'accord, puisque si tu regardes bien, on utilise les mêmes plateformes. Hein. Faut pas croire que les t-shirts vont être imprimés dans une qualité exceptionnelle.
Oui.
Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment une réglementation lorsque moi j'envoie mon image au centre qui imprime les t-shirts?
Normalement, si c'est une société sérieuse qui te fait ça, ils sont censés te dire est-ce que vous avez les droits ou pas.
Bah voilà.
C'est comme quand tu envoies tu prends le PDF d'un livre, d'un jeu de rôle, n'importe quoi, un PDF, et puis tu l'envoies à un imprimeur en ligne et tu demandes de te l'imprimer, il va te dire est-ce que vous avez les droits. Si c'est quelqu'un de sérieux.
Je pense que ça existe même pas dans l'univers du t-shirt. Moi, je suis sûr que je mets ma tête sur un t-shirt, on va pas me demander si c'est bien ma tête ou si j'ai les droits.
Ah, mais ta tête à toi, mais on s'en fout, toi. Mais si tu vas avec la tête d'un groupe connu, si tu fais une copie, parce que c'est de la copie, hein, c'est de la.
Je suis sûr, Dominique, on prend 10 sites aléatoires, on aura toujours l'impression qu'on veut, peu importe le logo qu'on va mettre dessus.
Après, si c'est juste pour toi, on va dire, tu fais juste une commande de un t-shirt pour te le porter, pour dire que j'ai réussi à avoir ce t-shirt que je cherchais depuis longtemps et je voulais pas claquer 50 euros. C'est certes illégal, mais ça reste dans le cadre du privé. Après, si tu en commandes 150 et tu les revends après au prix 50 euros pièce, là tu rentres plus que dans l'illégal, quoi. Tu fais du commerce de recel.
Oui, oui, mais je te parle d'imprimer un t-shirt pour toi. Je pense que c'est un.
Si c'est un truc qui est dans le commerce, c'est du vol.
Du plagiat.
Il faut te faire ton propre t-shirt, tu refais le logo toi-même. Si tu fais ta propre version, il n'y a pas de problème.
Et encore, je suis pratiquement sûr que quand tu transformes un logo déjà ou une image déjà existante, tu dois redemander justement d'avoir les droits pour pouvoir la transformer.
Oui, il y a des groupes ou des maisons qui sont un peu plus. Qui surveillent un peu là-dessus. Quoi.
Ah, la grande question, qui est responsable? Celui qui a demandé le t-shirt ou celui qui l'a imprimé et qui l'a vendu, tu vois? Alors. On va enchaîner quand même sur la musique. qui est le thème principal de cette émission, et on part sur du dur, hein, là, sur du métal qui claque bien. Alors, on n'a malheureusement pas d'extrait de l'album de David Hasselhoff, mais c'est noté dans l'agenda à sa sortie, puisque certains d'entre nous ont baqué, hein, bien sûr. Donc, dès qu'il sera sorti, on vous passera un titre, histoire d'écouter ça ensemble. Mais en attendant, on a décidé de faire une petite spéciale, puisque David Hasselhoff, on est d'accord qu'il ce n'est pas un chanteur de métal.
D'ailleurs,
Alors, est-ce
sur
qu'on
la
peut...
page du Kickstarter, on peut entendre des extraits d'enregistrement, enfin des sessions studio. Hein. Il a de la voix.
Moi, je propose qu'on ait un bel enregistrement surprise pour ça. Alors, je parlais de chanteur de métal, mais est-ce qu'on peut parler de chant lorsqu'on parle de métal? Doit-on parler de crieur public?
Il y a quand même de très très bons chanteurs, hein, attention.
Il y a les bons métalleux et les mauvais métalleux, mais on y reviendra tout à l'heure.
En fin d'émission.
En fin d'émission, on reposera la question à des experts.
Et je vous propose de partir un peu dans les roots des personnes qui ont, de manière
Ah.
inattendue, se sont lancées dans le métal. On a des chanteurs tels que Henry Dess. Alors, Henry Dess, on est bien d'accord, se spécialise un peu dans la musique enfantine. En tout cas, il était extrêmement connu pour ça.
C'est vrai.
Il était invité, je pense, sur des sessions du Hellfest. Et c'est grâce à son fils, Pierrick.
Son fils fait partie d'un groupe de métal.
Voilà. Et qui, dans les années 2000, a dit, bah, écoute, papa, je fais un groupe de métal. Est-ce que tu viendrais pas chanter une chanson avec nous sur scène, histoire de faire un Henry Death Metal.
Ah.
Est-ce que c'était pas juste pour la blague, tout ça? Juste pour le Henry Death Metal.
J'avoue que le jeu de mots est tombé parfaitement.
Oui. Après, comme son père est connu, ça faisait de la pub, et même si les gens, enfin, même s'il n'est pas connu pour le métal, bon, ça peut être un bon ticket d'entrée, en fait. En se disant, tiens, on sait jamais ce qu'on va voir, et ça peut attirer du monde.
Alors, le groupe de son fils s'appelle The Grand Gamin.
Anciennement nommé Explosion de caca. Hein. Je dis ça au passage.
Je vous propose d'écouter un extrait de Les bêtises à l'école de Henry Death and the Grand Gamin. Et bien sûr, on est bien dans le bon métal, là.
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé poil poil au nez devant toute la classe. Monte au tableau, poil poil au dos pour faire des grimaces. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien poil poil aux mains racontait ses histoires. Et son si bête poil aux chaussettes qu'on pleure dans nos mouchoirs. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil poil aux tresses qui pousse des soupirs. Quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. On apprend les bêtises. Et puis à moi, poil poil au bois qui marche à quatre pattes. Pour chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. On apprend les bêtises. Il y a la Thérèse, poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye, poil aux orteils, on le voit sa culotte. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. On apprend les bêtises. Poil poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête, poil au basket, Paris c'est la sortie. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. On apprend les bêtises.
Voilà, c'était Henry Death Metal and the Grand Gamin. Bon,
Ça surprend quand
c'était
même.
gentil et un peu. Il n'y a plus bourrin, je pense,
C'est marrant, c'est que son
dans
public
l'univers
de
métal.
l'époque, ils ont grandi, donc maintenant ils ont l'âge d'écouter ça. Je pense que même les enfants de son premier public écoutent ça maintenant.
Peut-être. Alors, il y a, comme vous l'avez compris, un thème ici qui est les personnes qui se sont lancées dans le métal. de manière un peu inattendue, on ne s'y attendait pas. Ce n'est pas les seuls, on en garde plusieurs sous la main. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui s'est passé sur Internet ? On parle d'un groupe de métal qui s'appelle Dragon Force, et l'un des guitaristes du groupe a décidé de faire ce qui cartonne en ce moment, et surtout en période de confinement, du Twitch. Sauf que...
En fait, il a refait ses partitions de musique et il a joué ses partitions de guitare sur sa chaîne Twitch personnelle. Et il s'est rendu compte qu'il s'est fait bannir sa chaîne pendant un certain temps. Donc il s'est trouvé bizarre pour lui de dire « je joue mes propres morceaux et je me fais ban parce que je joue des morceaux d'un groupe de musique connu, qui est le mien ».
C'est vrai que si vous faites partie d'un groupe et vous commencez à expliquer sur Twitch un peu comment faire vos chansons, il n'y a rien d'illégal. Sauf que, comme on le sait tous, il y a un algorithme qui a été demandé par plusieurs États afin de vérifier un peu les droits d'auteur. Hein. C'est la grande question du moment. C'est pour ça que sur YouTube, vous avez maintenant les YouTubeurs qui font des pubs eux-mêmes au début de leurs vidéos, parce qu'elles ne sont plus sponsorisées. Enfin, elles sont sponsorisées, mais ils ne touchent plus d'argent par rapport au nombre de vues. Et c'est un peu la même chose sur Twitch. Si jamais quelqu'un se plaint en disant « voilà, ils ont utilisé ma musique », on ne va pas se plaindre par rapport aux Twitchers ou YouTubeurs, on va directement attaquer la plateforme en elle-même. C'est pour ça qu'il y a des algorithmes qu'ils ont créés afin de dire si on détecte que des chansons qui ont été répertoriées chez nous, protégées de droit, si quelqu'un les utilise, on va bloquer la vidéo, voire bannir sa chaîne. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce guitariste de Dragon Force. En faisant des extraits de ses chansons, c'est retrouvé banni complètement.
Ça prouve que l'algorithme marche bien, en tout cas. C'est efficace.
Après, tu as aussi le Twitch qui répond à des demandes de DMCA, justement par des maisons de disques ou autres qui reconnaissent des morceaux à eux. Il y a des groupes qui sont faits exprès pour ces maisons de disques pour balayer énormément de vidéos Twitch et même de vidéos YouTube pour remonter des informations et dire « là, il y a une atteinte à nos droits ». Veuillez faire cesser la chaîne ou alors nous donner l'argent qui correspond à nos droits.
Disons que là, ils sont allés un petit peu vite, quoi. Mais de toute façon, ça va se régler, quoi. Il va pouvoir faire appel. Mais en général, ça, il faudrait qu'il demande à la personne qui possède la chaîne vous avez passé telle musique, est-ce que vous avez possédé les droits, etc. Et puis ça se règle assez facilement.
Mais du coup,
là, c'est un petit peu rigolo parce qu'effectivement, c'est sa propre musique qui jouait, donc c'est assez bizarre.
Ah, moi, après, je pensais que c'était un algorithme, mais il y a vraiment une personne qui a porté une plainte derrière.
Tout à fait.
Oui, je pense qu'au premier étape, c'est peut-être un algorithme qui fait le travail de lagage au début, puis ensuite, c'est peut-être des vrais humains. Enfin bon, ils travaillent quand même pour Twitch, hein, façon de parler. Est-ce que c'est pas des robots qui règlent ça au cas par cas?
Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire DMCA, qui n'est pas un autre
Digital
titre?
Millennium Copyright Act. C'est une loi qui date de 98 aux États-Unis.
J'allais faire une blague sur les Village People et tu m'as.
C'était pas mal, j'aimais bien.
Je m'attendais gros comme une maison.
Moi, j'aimais bien. Après, c'est aussi logique que Twitch prenne les devants en coupant la chanson et en demandant après, effectivement, à l'artiste original s'il accepte, s'il donne son feu vert, plutôt que laisser les chansons dérouler et puis demander seulement après à l'auteur original.
De toute façon, ils ne peuvent pas être illégaux dans leur façon de faire. La plateforme ne peut pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux maisons de disques. Si le streamer n'a pas les droits, il n'a pas le droit de passer de la musique. Point. Donc, quand Twitch reçoit une plainte d'une maison de disques en disant « Attention, cette personne n'a peut-être pas les droits, en tout cas, on ne le sait pas encore, pour ce qui passe dans ces vidéos », vous le bloquez. Twitch est obligé de le bloquer. Comme ça, après, il s'est mis en accord avec les maisons de disques. On peut rien leur reprocher.
En fait, c'est de sa faute. Il jouait trop bien. Donc, on a reconnu le morceau. La prochaine fois, il faudrait qu'il joue mal. Comme ça, l'algorithme ne reconnaîtra pas le morceau.
Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il est parti sur YouTube. Donc, il a un peu contourné ce problème qui existe également sur YouTube. Sauf que comme YouTube a signé plus d'accords avec les majors, ils arrivent un peu à naviguer comme ça sur des eaux troubles, ce que Twitch arrive difficilement à gérer. À tel point que certains streamers qui jouaient à des jeux vidéo et qui mettaient le son de la musique se retrouvaient bloqués parce qu'ils passaient des musiques qui étaient...
Peut-être que les algorithmes de YouTube sont plus rapides ou plus intelligents.
Après, sur YouTube, Le plus intéressant, c'est comme tu dis, ils ont signé beaucoup plus d'accords. La vidéo sera automatiquement mise en démonétisé ou alors en monétisation restreinte. Tout ce qu'ils pourraient avoir comme argent suite au visionnage ou au potentiel pub que YouTube met des fois eux-mêmes sur les vidéos des YouTubeurs, ils partiront directement sur les maisons de disques.
On enchaîne un peu sur de la musique, on va continuer dans le métal. On a écouté tout à l'heure un extrait d'Henry Death et on repart un peu comme ça dans ces chansons un peu enfantines, même si là c'était un peu pour les adolescents, hein, puisqu'on parle ici du Chevalier des Zodiacs, de Bioman, de Dragon Ball Z, une icône également du Club Dorothée. Alors, c'est pas Corbier cette fois-ci, hein, puisqu'on se réserve une émission spéciale François Corbier, mais là c'est un peu plus humoristique avec Bernard Minet.
Je pense que dans l'album, puisqu'on parle bien d'un album qu'il a sorti, qui est sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a 2 ans, où il reprend tous ses génériques, mais en version métal.
Cherche la chanson 17, François. Quel est le survivant dans cet album ?
Parce qu'en fait, lui, c'est un batteur à la base. Et il a toujours joué du métal, mais bon, c'est pas forcément pendant le Club Dorothée. Donc c'était naturel qu'un jour il fasse. Il s'est même produit au Hellfest, hein, mais je crois qu'il n'a pas été super bien accueilli.
Arrête, qui ne peut pas bien accueillir Bernard Minet ? Non. Alors, on va s'écouter Ken, le survivant, à la demande de Pierre-Yves.
Merci beaucoup.
De rien. C'est Bernard Minet avec Ken le survivant.
Le Bernard Minet Metal Band, s'il te plaît.
Oui, c'est son groupe.
Mais alors, est-ce que c'est lui qui a chanté l'original ?
Ah, pas tout à fait. Alors, le chanteur original s'appelle bien Bernard, mais c'est pas Minet, en fait. C'est Bernard Denimal. Bon, mais comme c'était un clin d'œil à Bernard Minet version métal, puis que j'aime bien la chanson originale, ça me semblait un clin d'œil approprié.
T'es sûr que c'est pas son nom, son véritable nom, hein, qui a pris le vrai nom d'artiste ?
Non, le vrai nom de Bernard Minet, c'est Bernard Montier. C'est un gars du Nord, enfin du Nord, pas de Calais.
C'est pas la même voix. En plus.
On enchaîne avec d'autres news liées au métal, et cette fois-ci, on peut un peu partir dans l'univers du jeu de rôle qu'on avait bien entamé la semaine dernière, Et il y a des jeux de rôle qui sont un peu liés à l'univers du métal. Et c'est un peu surprenant, puisque vous allez pouvoir notamment jouer des artistes de métal, tout simplement. Tout cela est lié à un groupe qui s'appelle The Rotting Christ. Est-ce qu'on est sur du métal chrétien ici?
Peut-être anti-chrétien à la limite.
Ah mon Dieu!
On n'est pas dans le jeu de rôle des bisounours, je ne sais quoi, là, attention.
Ça me fait plus penser à In nomine Satanis Magnus Veritas que, effectivement.
Bon, déjà, quand tu traduis le nom du groupe, t'es pas sûr d'être justement sur un groupe chrétien.
Ça aurait pu faire semblant. Et si on va être dans un univers de dark fantasy?
Faut dire que le créateur, c'est Batro Games, et Batro, c'est quelqu'un qui a déjà fait quelques jeux de rôle qui sont des... Comment on dit, c'est pas lui qui a fait le jeu de rôle Binouzounours, effectivement. C'est que des rôles... Il y a beaucoup de sexe, de drogue, de rock'n'roll dans ces jeux vidéo, dans ces jeux de rôle, pardon. Et c'est pas... C'est assez sympa, mais c'est une ambiance très, très, très dark.
Dans le gameplay du jeu, on va retrouver des éléments de musique.
Exactement. Comme je disais, ils réutilisent des mécaniques qu'on trouve dans des jeux vidéo comme Guitar Hero et compagnie. Et c'est basé sur l'histoire d'un groupe qui s'appelle vraiment Rotting Christ. Mais est-ce que le groupe existe ou pas? On ne sait pas. Ils ont leur site internet, rottingchrist.com. Il y a une discographie, etc. Donc apparemment, c'est un vrai groupe. Et donc, c'est le premier jeu de rôle qui est vraiment basé sur... qui est un petit peu, c'est un jeu de rôle presque autobiographique sur un groupe de rock.
Après, ce que je j'arrive pas à voir exactement comment tu peux le faire parce que je n'ai pas le jeu de rôle sous la main et forcément je ne connais pas la mécanique appropriée. Mais les duels que tu vas faire pour combattre tes adversaires, parce que t'as toujours une section combat dans un jeu de rôle, ça sera fait par des duels de riffs de guitare, par exemple. Il faudra poser tes notes, faudra enfin et rien que ça, c'est intriguant, ça te donne envie de en savoir un peu plus.
Est-ce que ça sera pas lié un peu à The Peak of Destiny, le film de Jack Black, où on pouvait retrouver notamment Dave Grohl en démon, et puis ça se battait à coups de guitare métal. Peut-être que ça peut se rejoindre au bout d'un moment. Alors, ils ont fait plusieurs jeux, les créateurs de Rotting Christ, tels que Planète Hurlante, Hackers, Les Exorcistes, Étrange Empire et le monde des ténèbres. Voilà, on sent que c'est vachement dark quand même, hein.
Après, pour celui-là, je pense se renseigner sur le thème, le monde, tout ce qui est le lore qui entoure. Tu devrais avoir de très belles illustrations, pas forcément sur le côté satanique des anciens groupes de métal qu'ils pouvaient avoir dans les années 2000, mais beaucoup plus, par exemple, de noir et blanc ou d'œuvres un peu psychédéliques, on va dire ça comme ça, pour vraiment mettre une ambiance et tout en gardant le côté, je vais pas dire bon enfant, mais le côté vraiment métal. Et le côté grosse guitare bien présente.
Alors, parler tout à l'heure des artistes qui se sont lancés dans le métal alors qu'on ne s'y attendait pas. Et il y a aussi l'intelligence artificielle qui s'est lancée dans l'aventure, et notamment à travers un site qui s'appelle DadaBots. Bots, hein, on parle bien d'AI ici. Ils ont créé une chaîne qui vous permet d'écouter de la musique créée par ordinateur en live, 7 jours sur 7. Je vous propose alors, je vais essayer de retrouver le lien pour faire un peu écouter. Donc ce que vous entendez actuellement, c'est de la musique créée par ordinateur et il a même créé les voix.
C'est vrai que si tu ne nous avais pas dit que c'était fait par ordinateur, je pense qu'on aurait très bien pu croire que c'était un être humain qui avait réalisé cette musique, et j'aurais tout à fait cru.
Il y a pas mal de groupes doom metal et compagnie qui ont cette approche de la musique, on va dire ça comme ça. Et donc c'est vrai que oui, ça aurait pu être surprenant.
Donc voilà, quand on voit que l'intelligence artificielle arrive à créer des morceaux qui seraient issus de vrais artistes, on commence à se poser de sérieuses questions. Donc voilà, si n'hésitez pas sur le site
Après,
dadabots.com.
il faudra s'inquiéter quand les gens préféreront entendre cette musique plutôt qu'entendre de la musique réellement faite par des humains, en fait.
En même temps, tu as déjà la moitié de la musique où tout le monde saute dessus en boîte qui est fait juste avec des samples qui sont assemblés les uns après les autres. Donc, tu as déjà la moitié qui est faite.
Est-ce qu'on n'enchaînerait pas encore un peu sur le jeu de rôle dans ces news qu'on n'a pas eu le temps d'éliminer la semaine dernière? On peut parler rapidement du jeu de rôle Conan. Pourquoi est-ce qu'on parle de Conan? Parce qu'il y a ce qu'on appelle du late pledge, on peut encore participer pour backer pour le jeu de rôle Edge of Conan?
Parce qu'il y avait eu un Kickstarter pour une nouvelle version d'un jeu de rôle Conan. On en avait parlé dans une émission d'ailleurs. Et là, on peut encore le commander.
Alors c'est marrant que j'ai encore le tic de dire Edge of Conan. Alors pour 40 € on peut avoir le livre de base d'aventure épique d'un âge oublié. Alors c'est une version bien sûr qui sera en PDF mais également physique. Donc vous pouvez recevoir cette édition. Et si vous allez jusqu'à 80 €, alors ici on parle de réduction puisque à la base vous paierez 100 €, vous pouvez avoir l'intégrale des livres. Et après au-dessus de 170, vous avez carrément le plateau du maître de jeu, les fiches de personnages, les dés, etc. Parce qu'il y a tellement d'univers différents maintenant dans les jeux de rôle. Est-ce que Conan, pour vous, ça serait quelque chose qui pourrait vous intéresser?
Et jouer que des persos, que des scénarios, mais en finesse, sans combat, ça pourrait être un challenge.
Que de l'infiltration.
Que de l'infiltration, de la discussion, de la diplomatie.
Après, on retombe encore dans le monde de l'heroic fantasy, et bon, j'avoue que j'ai déjà beaucoup joué à des jeux dans cet univers, donc j'aimerais bien pouvoir changer un peu.
Tu serais prêt à relancer un jeu que tu as fait en tant que joueur ou MJ il y a très longtemps, du moment que tu restes dans le même thème, mais voilà, là je rejoins Pierre-Yves sur le côté où si je reprends un jeu de rôle, ce sera un truc complètement différent.
Conan dans l'espace.
Ou alors dans sa durée, par exemple, il y a plein de jeux qui sont narratifs où tu jettes plus de dés, ou alors des jeux où tu jettes tous les dés d'un coup et après t'as ton pool de dés où chaque résultat va être utilisé qu'une fois. Enfin, t'as tellement de jeux de rôle différents que ressortir un jeu de rôle, on va dire, entre guillemets, traditionnel comme ça, maintenant, c'est. Non, avec tous ceux qu'on a joués et ceux qu'on a encore chez nous, je vois peut-être pas trop l'intérêt.
Après, enfin, c'est un univers qui est connu, donc c'est vrai que jouer dans cet univers, ça peut être super intéressant. Puis si jamais tu croises Conan au cours d'une partie, un peu comme dans le MMO, c'est marrant. Mais bon, à
Alors,
part
dans
ça.
le MMO, il était assis sur un siège et puis c'est tout.
Eh ben
Un
oui,
peu déprimant.
mais quand même.
Ouais, si t'as une
C'est
hype
Conan
avec.
à la retraite, quoi.
Si t'as plusieurs potes qui veulent se lancer là-dedans, pourquoi pas, mais est-ce que la création de personnage va durer assez longtemps pour que tu vas se faire un one shot avec tes potes en soirée? Enfin, je sais pas si tu vas transformer ça en campagne, quoi.
Alors attention, Conan ne veut pas dire tous, on va tous jouer un barbare. Hein. On parle ici de magicien et on peut avoir des enquêtes, comme tu disais Dominique, c'est fort possible. Moi, la grande question que je me pose, c'est que on part, comme Pierre-Yves l'a dit, dans de l'heroic fantasy, ce qui a été utilisé, réutilisé et mine de rien, le 80% des jeux de
Mais
rôle
ça marche
essoré.
toujours quand on voit les séries télé et les films, ça marche toujours.
Ça a été essoré, même, on peut le dire.
Bah,
Oui,
après,
mais.
c'est l'heroic fantasy qui est assez brutal. Hein. S'il me semble, c'était pas Bloodlust, je crois, de mémoire, qui avait aussi un jeu de rôle
Un peu dans
très, très
l'univers, oui.
bourrin. Voilà, et qui était une énorme machine. Enfin, il fallait vraiment s'investir dedans pour y jouer. Après, on parle pas de l'heroic fantasy avec des elfes, des gobelins, etc., comme on peut trouver comme dans d'autres jeux de rôle qui avaient fait fureur à l'époque, comme Warhammer et compagnie. Là, c'est un heroic fantasy brut de décoffrage, quoi. Donc, il peut faire sa différence quand même.
Après, ça me fait penser un peu à Michael Morcook, en fait, donc tout ce qui est Moon et compagnie. Bon, avec les grands bretons en moins, mais bon, je trouve que ça manque un peu d'originalité aujourd'hui.
Alors, pourquoi est-ce que le jeu de société, qui était entre le jeu de société et le wargame, a-t-il si bien fonctionné? A-t-il eu autant d'acclamations? Pourquoi est-ce que le jeu de rôle, on a l'impression qu'il est moins attrayant que le jeu de société?
Bah, en fait, tu as eu un certain temps où il n'y a eu aucune chose qui était sortie sous licence Conan. Le Monolith, quand il a créé, qui est donc la maison d'édition de Conan, le jeu de figurines, le jeu de plateau, a racheté la licence de Conan et a retravaillé le jeu pour coller au thème. Et c'était tellement en manque, tellement en demande par les fans de Conan, que ça a marché tout de suite.
Faut dire que les boîtes étaient remplies de figurines, mais magnifiques. Rien que pour les figurines.
Et
Faut acheter
figurines.
le jeu de plateau, prendre des figurines et jouer au jeu de rôle.
Les figurines restaient dans le thème, t'avais vraiment les figurines des personnages, des bouquins, enfin t'avais tout.
C'est-à-dire, tu peux, si t'es fan de Conan, tu peux très bien acheter les livres de bas parce que il y a, dedans, on retrouve des graphismes. Il y a plus de 25 artistes qui ont participé au projet. Des origines, hein. C'est, Brom, par exemple, qui a fait la fameuse couverture originale dont je pense qu'on l'a toutes vues une fois, où t'as Conan sur son cheval, etc. Enfin, vraiment, le Conan mythique. Il y a plein d'artistes qui ont participé des graphistes qui ont participé à cette édition.
Après, je pense que le jeu de rôle a aussi connu, bon, même s'il a repris maintenant, s'il a le vent en poupe, il y a eu un moment où il était un peu au creux de la vague, et c'est cette période aussi où le jeu de plateau, lui, par contre, a connu un peu son heure de gloire et tout ça. Donc bon, c'est aussi normal qu'à cette époque, le jeu de société ait eu...
Non, mais de toute façon, il y a un truc très simple qui est passé, qui a fait très mal au jeu de rôle, et ça tient en 5 lettres, Magic. Ah. Magic est arrivé, les salles de jeux de rôle ont été vidées, parce que tous les joueurs de jeux de rôle se sont mis à Magic et sont devenus complètement accros, enfin, beaucoup, et ça commence à reprendre.
Alors là, dans cette version de Conan, on repart sur une mécanique de 2D20, ça a été développé par Modifius, si je ne me trompe, et donc dans Mutant Chronicle, Infinity, John Carter of Mars, donc voilà, on est un peu bizarrement dans du répétitif, et moi ce qui me fait un peu peur, c'est que si demain je vous sors le jeu de rôle Conan et le jeu de rôle Koh-Lanta, j'ai l'impression qu'on va faire une partie de Koh-Lanta.
Bah oui, parce qu'on n'aura pas le temps. Tu veux jouer quand ? Vas-y, dis-moi, on met une heure là, tu prends ton agenda, quand est-ce qu'on joue à Conan ? Bah voilà, on va pas pouvoir... Gens. Si on arrive à trouver une heure, déjà on arrive à trouver du temps pour enregistrer l'émission, c'est un miracle. À retrouver une soirée pour jouer... Non, c'est mort. Donc avec Koh-Lanta, au moins, ça va aller très vite.
Puis je t'avouerai que ça me ferait... entre guillemets, ça me ferait bien chier de perdre un personnage dans un jeu de rôle comme Conan, en tant que on y joue une fois et puis on n'y jouera plus jamais, que voilà, le jeu Koh-Lanta, pour moi, ça sera juste une soirée délire.
Si tu perds ton perso, c'est pas très grave.
Voilà. Et puis ce sera original, donc c'est pour ça que ce sera aussi intéressant d'y jouer, alors que finalement, effectivement, Conan, on aurait eu l'impression
d'avoir... On sait qu'on ira au bout de la partie.
Voilà, et c'est ma grande question, est-ce qu'il y a encore un public pour autant de jeux de rôle ?
Ah, mais il y en a plein, c'est en train d'exploser. Tu parlais tout à l'heure de la cyberconvention qui va arriver, mais il y a une demande incroyable. Bon, là, avec le confinement, c'est un peu spécial, mais c'est le jeu de rôle est vraiment en train de reprendre de plus en plus.
Oui, il est en train de reprendre, mais est-ce que généralement, quand vous faites un jeu de rôle, vous n'aimez pas jouer toujours le même jeu pour justement avoir une évolution de personnage, pouvoir créer une campagne, une histoire?
Ça, c'est les persos qui évoluent, etc., qui gagnent des niveaux et des niveaux. Ça, c'est un petit peu le passé, j'ai envie de dire.
On est sur du run, die and repeat, mais en changeant de jeu à chaque fois.
Non, mais pas. T'as envie de vivre des aventures. Tu t'en fous que ton perso, il évolue ou pas. C'est pas grave.
Après, tu vois, t'as des jeux de rôle. Comme un jeu de rôle que j'aimerais bien faire et mettre en place, c'est le jeu de rôle, par exemple, Sombre, qui est le mettre en place un film d'horreur, comme si t'étais dans les personnages du film. C'était comme si t'étais les acteurs. Et tu subis le scénario du metteur en scène, et le but, c'est quand même de rester le plus longtemps en vie possible.
C'est juste de vivre des aventures, voilà, et que ça te prenne pas, et tu t'embarques pas justement pour des heures et des jours et des années, des fois. Non. C'est ce qui fait peur dans les anciens jeux de rôle, c'est que tu sais que tu étais parti pour des années et des années. Là, tu peux te faire une partie de jeu de rôle comme si tu étais une partie de jeu de société.
Je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un personnage et de le faire se développer, et effectivement, quand on jouait au jeu de rôle Star Wars. J'avais un jeune Jedi, au début, il pouvait faire aucun pouvoir, et c'est vrai qu'après, au bout de quelques scénarios, il pouvait faire des sorts plus puissants, donc c'était quand même super intéressant. Mais bon, enfin, c'est pas pour ça que j'avais tout le temps envie de jouer au seul et même jeu, en fait. C'est vrai que changer d'univers, un nouveau personnage, repartir de zéro, repenser ton personnage, c'est super intéressant.
Oh là, c'est un petit peu comme les séries, quoi. Tu regardes une série, mais alors des fois tu t'enfiles une saison entière d'une série, mais t'as envie de changer un peu. Tu regardes pas, tu vas pas te faire peut-être les 4-5 saisons d'une série, tu vas peut-être regarder un ou deux épisodes ou un film entre deux. Tu changes un peu, quoi.
Après, je dis pas, tu restes par une partie d'un club ou d'un groupe de joueurs qui voilà. Te rencontres une fois par semaine. Et ben, une fois sur les 4 semaines du mois, tu peux te permettre de faire un autre jeu. Pendant ce temps-là, tu fais progresser ton perso les 3 autres semaines. Mais quand tu es comme nous maintenant, où on fait une partie jeu de rôle une fois tous les 15 000, t'es bien contente des fois de faire plusieurs parties dans la même soirée. Donc tu prends des autres jeux, des jeux plus courts. Tu t'amuses un peu plus, tu profites plus du moment.
Moi, je suis dans l'opposé. Moi, je préfère faire un jeu où, justement, je vais avoir une petite évolution. Et mine de rien, c'est pas pour rien
qu'on joue.
On dit ça et on joue à The Crew à chaque fois qu'on se rencontre.
Voilà, parce qu'on sait qu'on fera pas de jeu de rôle parce qu'on n'aura pas le temps et on va réussir à fixer des rendez-vous.
Mais ouais, parce qu'à la limite, The Crew, c'est toi qui progresses en tant que personne. Non,
ça va vite, ça prend pas de place, voilà, puis on arrête quand on veut.
C'est ça. On fait Bandido et ensuite on enchaîne par The Crew, qui est une très bonne alchimie.
Après, quand tu joues à un jeu Legacy, du coup, ça rejoint un peu ce que tu cherches, François.
Ouais, là, tu racontes un peu une aventure.
Pour moi, le jeu de rôle, c'est ça. C'est une continuité par rapport à un jeu précis. Et je m'étonne qu'il y ait autant de jeux de rôle différents. La base de joueurs de jeux de rôle est quand même assez limitée.
Là, c'est énorme. Tu serais très surpris. Tu serais très, 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 très surpris.
C'est comme les jeux de société. Je pense qu'il y a des gens qui font des Kickstarters de jeux de rôle qui traînent dans l'armoire. Vous m'enlèverez.
T'as des collections.
Ça a toujours été ça. Il y a toujours, moi-même, j'ai acheté des jeux de rôle, juste parce que c'est des livres à la base, mais je pense que là, pour la majorité des gens, il y a une très bonne partie de leurs jeux de rôle qui sont achetés. C'était juste pour les lire, c'est pas forcément pour y jouer. Ça fait aussi partie du plaisir.
Alors, François, hein, juste, hein, tu sais, je vais bientôt déménager. J'ai acheté tous vos persos d'ADD, enfin, de Donjons & Dragons 3ème édition, hein, donc je suis désolé. Hein.
Moi, je suis dégoûté parce que je pensais que tu tapissais tes murs de nos fiches de personnages morts.
Ils n'étaient pas morts encore.
Mais ils n'étaient pas morts. Ils étaient
seulement
pas
ceux de Cthulhu.
C'est pas grave, je me souviens.
Mais à l'époque, on ne pouvait pas prendre une photo et la convertir en PDF. Hein, c'est...
Oh, certainement. Si, déjà, non, à l'époque.
On s'est essayé d'ailleurs hein, au jeu en ligne, mais il y a quoi de, il y a de ça une quinzaine d'années où on a essayé de faire des Star Wars et à l'époque, on faisait ça par mail.
Ça marchait bien.
Est-ce que vous vous souvenez de la galère que c'était de faire un jeu de rôle à l'époque?
C'était très sympa.
D'attendre qu'il y en a un qui réponde pour que les cinq autres puissent faire leur action.
Alors que maintenant, tu fais ça sur Discord et c'est presque en temps réel. Magic a déjà coupé une bonne tranche dans les jeux de rôle. Les MMORPG, World of Warcraft est arrivé après et boum, deuxième coup de savate.
Mais bizarrement, si tu regardes maintenant, tu as des jeux tels que GTA ou Red Dead Redemption où vous allez avoir une version alternative de RPG où vous allez vraiment jouer. Il y en a qui va jouer vraiment le policier.
Il y a énormément de joueurs qui n'ont jamais joué au rôle, de jeunes qui ont commencé par World of Warcraft, par exemple, et qui en ont eu marre et qui ont découvert qu'on peut jouer autour d'une table avec des, on pouvait jouer des personnages autour d'une table avec des dés et des crayons, et qui s'y sont mis et qui ont pu se toucher à World of Warcraft. Donc ça fait partie du nouveau public du jeu de rôle.
Attendons de pouvoir jouer, admettons, avec des lunettes 3D ou du coup tous ensemble, hop, on est dans le même univers avec
casques VR.
Ouais, voilà, tout à fait. Avec une épée en main et compagnie, et puis des capteurs qui font que tu sens les coups quand tu te fais taper et tout.
Alors, je vous propose de clôturer cette émission avec les inconnus, les experts dans l'interprétation d'un groupe qui n'existe pas.
Hélas.
Ici, on part dans une chanson de hard rock, légèrement métal, avec un groupe qui s'appelle, Dominique ?
Douceur de vivre.
Avec deux S ?
Bien sûr.
Très important. Et on vous laisse un petit morceau de l'interview qui est unique et on vous invite à...
C'est la question qu'on posait au début de l'émission. Quelle est la différence entre le bon et le mauvais métal?
C'est ça. Et vous pouvez réécouter complètement l'intégralité du sketch, bien sûr, qui est énorme. Voilà, on se quitte avec ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Portez-vous bien.
Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock?
C'est sûr que le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec, il a la guitare. Il est sur scène, il crache, mais...
Bah, si tu veux, bon, c'est simple, ouais. Le mauvais hard rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache.
Il crache,
alors que le bon hard rock, bon, le mec... Il a la guitare,
mais il crache,
ça n'a rien à voir.
C'est une question, tiens, le mec, il fait du mauvais hard rock, il arrive, il prend la guitare, il crache, tu vois, c'est tout. Le mec, il fait du mauvais hard rock, il prend la guitare, il crache.
Il crache, mais bon... On en avait parlé dernièrement à Toulouse, parce qu'on est allé à la chasse, à la Gaïne. Je veux dire, c'est évident, il y a le bon et le mauvais hard rock.
Un peu ton cœur, il t'apprend la tendresse. Que désire ton âme de la délicatesse? Dieu a créé l'amour au jour du septième jour. Un amour si fragile, fabriqué en argile, c'est dit dans l'évangile. Retrouve dans ta tête ton âme de poète. Souviens-toi comme t'es chouette, le parfum des violettes, un soir de pâquerette. Suis-moi là,
tout n'est qu'en beauté, luxe, calme et volupté. Redonne un sens à ta vie en y mettant de l'amour. Hey, si. poésie, poésie.
Laisse battre ton cœur, il t'apprend la sagesse. Laisse parler ton âme, elle désire des caresses. Tu as voulu t'aimer, c'est pour ça qu'il t'a fait. Avec de la terre glaise, ça ne sait pas les foutaises, c'est dit dans la genèse. Tu as besoin d'azur, de grands larges et d'air pur. Alors fuis la menace des phénomènes de masse, des cris de populace.